France Inter, le 18-20.
Quand on est parent, l'angoisse de l'école existe parfois autant que chez les enfants. Est-ce que j'ai fait le bon choix d'établissement? Est-ce que la pédagogie va convenir à mon fils? Et si ma fille ne s'adaptait pas? Est-ce que l'école telle que je la connais moi n'est pas trop vieille, trop figée, trop source d'angoisse? Est-ce que c'est important pour mon enfant qu'il soit armé contre quoi? Armé pour le goût d'apprendre? Armé pour le goût des autres? Comment ça marche exactement? Sans parler de ceux qui ont de vrais soucis d'adaptation à l'école et qui ont besoin d'une pédagogie totalement différente pour leur développement. Alors, y a-t-il des méthodes, des écoles alternatives qui sont meilleures? On connaît ce qui existe, évidemment, Montessori, Freinet, puis d'autres encore. Autant d'écoles qui ne sont pas forcément hors éducation nationale, c'est bien de le souligner, mais parfois oui, et donc c'est bien le reproche d'ailleurs qu'il aurait parfois fait des écoles avec des enfants qui ont déjà une sorte de background grâce à leurs parents, ce qui permet à l'école de s'éloigner plus facilement des sentiers battus. Pourquoi, cela dit, ces écoles ont-elles le succès qu'on leur connaît? Est-ce une perte de confiance dans l'éducation nationale, un peu comme on perd confiance finalement dans les institutions aujourd'hui? Comment je sais moi ce qui sera le mieux pour mon enfant et son adaptation après, d'ailleurs dans un collège dit classique, elle se fera comment? C'est tout l'objet de notre discussion ce soir et soyez les bienvenus dans le Téléphone Sonne.
Fabienne Saint-Ès. Le Téléphone Sonne.
Bruno, c'est vous le premier, soyez le bienvenu Bruno, on vous écoute.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors oui, je voulais témoigner parce que je suis enseignant en lycée professionnel, donc dans une école du public à Paris. Et avec d'autres collègues, on pratique la pédagogie institutionnelle. Donc c'est pas généralisé dans le lycée, mais on a fait un choix à un moment donné d'avoir d'autres pratiques et au sein du public. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, ces pédagogies-là sont souvent réservées à quelques écoles, notamment on pense aux écoles Freinet, dans quelques quartiers, il y en a une à Paris notamment qui est connue à Vitruve, mais ça touche très très peu d'enfants ou très très peu d'adolescents. Et ce qu'on souhaitait, nous, et les collègues avec qui on fait ça, c'était instaurer des pratiques qui ont du sens auprès des élèves, donc avec notamment la prise de parole, voilà, parce qu'on travaille beaucoup sur les oraux, voilà, c'est le grand discours du ministre, mais c'est un oral qui n'a qu'un but évaluatif, et la pédagogie institutionnelle essaie de faire apprendre à la parole pour avoir des choses à dire, et pas juste pour pouvoir évaluer après ou pour avoir un diplôme.
Donc c'est le principe, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous pratiquez la pédagogie institutionnelle, mais en clair ça veut dire quoi en fait?
Alors, au en quotidien. Quelques mots, ce qui est connu de la pédagogie institutionnelle, c'est le quoi de neuf, donc c'est tous les cours, les débuts de cours démarrent par une prise de parole libre, ça permet aussi de capter parfois la subjectivité du groupe, et de comprendre peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que peut-être que le cours, avant de démarrer, il faut savoir ce qui se joue dans le groupe. Et il y a aussi ce qu'on appelle le conseil, donc c'est selon la régularité, ça peut être toutes les semaines dans le primaire, parce que c'est plus facile quand on a un groupe tous les jours, ou tous les 15 jours, ou tous les mois, où il y a un temps où on prend des décisions pour le groupe, à horizon, de manière égale, enseignant, élève. Et ça donne du sens à ce qui se passe, parce que c'est le groupe entier qui décide pour.
Mais c'est des décisions de quel genre?
Ça peut être des trucs tout bêtes sur on perd du temps le matin pour distribuer des feuilles. Et le conseil pourrait décider de nommer un élève qui va distribuer les feuilles en arrivant. Voilà. Ce sont des choses toutes bêtes, mais qui donnent de la responsabilité et qui ne laissent pas l'enseignant tout puissant à tout faire et à penser que les élèves doivent juste tout attendre de l'enseignant. Et ça donne de l'autonomie et ça rend vraiment les enfants ou les plus grands, parce que moi je le pratique avec plutôt des plus grands, responsables. Et notamment le retour que j'ai moi de ceux qui ont connu l'école, enfin qui sont dans la même toujours une école publique, c'est de dire on nous a jamais donné la parole. Voilà, on nous donne la parole pour répondre à des questions, pour nous dire c'est bon ou c'est pas bon. Mais on n'a jamais le droit de dire ce qu'on pense, et que là, c'est institué. C'est pour ça qu'on parle de pédagogie institutionnelle. On institue des temps, et qui sont pour le coup très cadrés. Voilà, on sait que ce temps de parole libre, il est au début du cours, et pas après. Voilà, parce que c'est cadré, et ça, à la fois, ça rassure, et ça donne de la liberté.
Ok.
Et ça, c'est très, à contre-courant de ce qui est prôné aujourd'hui par le ministère. Où on veut rétablir une autorité du prof très verticale, pour pas dire très jupitérienne, et qui, et notamment pour travailler en lycée professionnel, on voit bien que la réforme qui a été annoncée sur vos antennes par le ministre, c'est de préparer des jeunes au salariat. Alors peut-être que l'école a toujours été prévue pour ça, mais là clairement le lycée professionnel est pas du tout a pas du tout envie de former des citoyens, mais de préparer des jeunes aux demandes du patronat. Et on voit bien que cette pédagogie là, il y a peu de chances qu'elle se développe parce qu'elle permet aux RCF Rennais qui avaient souhaité que des jeunes réfléchissent, parce qu'ils disaient que beaucoup de jeunes partaient à la guerre, d'enfants partaient à la guerre, alors qu'ils savaient très bien qu'ils allaient se faire tuer, et qu'ils ne comprenaient pas qu'une jeunesse puisse partir, parce qu'on leur disait de partir, et voilà, ils voulaient que les jeunes réfléchissent avant de... Et ça me paraît important.
Ce qui est une manière de rappeler que ces méthodes qu'on dit différentes, on appelle ça même des fois l'éducation nouvelle, sont des méthodes qui sont extrêmement anciennes et qui ont presque un siècle aujourd'hui, d'une école à l'autre. Merci beaucoup pour ce témoignage d'entrée, Bruno, qui nous permet d'engager en fait dans cette discussion pour discuter ensemble autour de cette table. Patricia Spinelli est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de l'Institut supérieur Maria Montessori. Vous allez peut-être nous parler aussi d'ailleurs de la méthode Freinet, même si c'est pas la vôtre, et on verra comment tout à l'heure. Bonsoir Philippe Mérieux.
Bonsoir.
Vous êtes en duplex depuis France Bleu à Valence. On remercie nos amis de Valence de vous avoir prêté leur studio. Vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation. On sait qui vous êtes. Vous avez écrit notamment très récemment la riposte, école alternative neurosciences, bonne vieille méthode pour en finir avec les miroirs aux alouettes. Et Patricia Spinelli, tiens, pour être tout à fait juste avec vous, j'ai sous les yeux le cahier d'activité Montessori pour les nuls de 0 à 3 ans. Et ça aussi, c'est un outil qui peut être intéressant pour les parents, pour leurs enfants aussi. Je voudrais commencer avec vous, Monsieur Mérieux, si vous le voulez bien. Dans le témoignage de Bruno, moi, ce qui me frappe, c'est l'idée que quand on est plus ouvert dans sa classe, finalement, c'est que c'est aller à l'encontre de ce qui est prôné par l'éducation nationale. Est-ce qu'on est vraiment dans ces deux mondes qui, semble-t-il, ne se touchent pas, en fait ?
C'est pas aussi marqué que cela. L'éducation nationale promeut officiellement l'éducation, la formation à la citoyenneté. Il y a même l'éducation morale et civique. Il y a toute une série d'incitations des professeurs à s'engager dans une pédagogie plus active et qui met les élèves en situation de dialogue et de débat authentique, comme notre collègue nous l'a expliqué. La réalité, c'est que derrière cette incitation, parfois les pratiques, c'est plus compliqué, que les innovateurs, comme ce collègue qui fait un boulot merveilleux en lycée professionnel, dans des situations de toute évidence difficiles, ben, les pratiques, elles ont du mal à se pérenniser, et que l'éducation nationale, c'est une gigantesque machine, machine qui fait plus attention à ce que chacun reste à sa place et ne sorte pas des clous, des rails, plutôt que de promouvoir une innovation qui permettrait justement à tous ces professeurs de se vivre, pas simplement comme des exécutants de circulaires ou d'instructions qui viendraient du dessus, mais de se vivre vraiment comme des cadres, comme des gens qui ont un métier de responsabilité, qui doivent donner le désir d'apprendre à tous leurs élèves et leur donner la formation citoyenne dont ils ont besoin.
Mais quand vous dites chacun doit rester à sa place dans certaines idées comme ça, ça vient de l'éducation nationale probablement en partie, mais peut-être aussi des parents, monsieur Mérieux, non ? Dont certains sont particulièrement, on va dire, conservateurs, dans le premier terme de conservateurs, et entendent que la classe se passe avec un prof devant et des élèves assis.
Oui, je pense que beaucoup de parents peuvent avoir cette image, mais les expériences montrent, et on pourrait les multiplier ici, Patricia Spinelli en donnera certaines, que quand on peut montrer aux parents concrètement qu'une autre pédagogie permet aux enfants non pas d'apprendre aussi bien, mais d'apprendre encore mieux, les parents sont convaincus. Les parents ne cherchent pas d'abord à ce qu'on reproduise un modèle, ils cherchent d'abord à ce que leurs enfants s'inscrivent dans une démarche d'apprentissage, réussissent dans cette démarche d'apprentissage, vivent l'école comme un lieu d'épanouissement pour eux. Et je pense que c'est possible de les convaincre de cela. Alors, la difficulté, c'est que il y a une machine, cette machine école qui est très puissante, et que dans cette machine, si vous êtes un enseignant un peu tranquille, bon, globalement, personne ne vous demande rien. Si vous êtes un enseignant qui essaye de mettre en place une pédagogie un peu novatrice, comme nos collègues de lycée professionnel, alors là, parfois, on vous demande des dossiers, des justificatifs à l'infini. Parfois, on vous demande de justifier même de 100% de réussite, alors qu'à côté, avec des pratiques plus traditionnelles, on est parfois un petit peu plus coulant. Et c'est ce sentiment qu'ont les innovateurs de ne pas être nécessairement les bienvenus dans l'éducation nationale, d'être soupçonnés de pas faire bien leur boulot au quotidien, qui fait que parfois ils se découragent et que parfois vont créer des écoles alternatives, par exemple.
Ou retournent à quelque chose de beaucoup plus basique. Patricia Spinelli, moi, dans ce que dit Bruno, je suis frappée. Les élèves lui ont dit, on nous a jamais donné la parole. D'habitude, c'est l'autorité du prof. J'entends, je ne suis pas complètement naïve, mais ça paraît tellement stupide, en fait, quand on y songe. Enfin, de se dire que ces élèves n'ont jamais eu la parole, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui a été raté en route, quand même. Tous les profs, y compris très classiques, donnent aussi la parole à d'autres. C'est fou de se retrouver avec des gamins qui pensent qu'on ne leur a jamais rien demandé.
C'est-à-dire qu'on leur a sûrement demandé quelque chose, mais je pense qu'ils parlent d'une parole authentique.
C'est ça.
C'est-à-dire leur propre parole.
Ça paraît tellement simple.
C'est-à-dire
qu'ils ont
eu à répondre à des questions, ils ont eu à répondre à des demandes, ils ont eu à répondre à des attentes. Et en général, pour avoir fréquenté l'école publique laïque, le système, je l'ai vécu aussi. Et c'est vrai qu'on s'inscrit très vite dans les attentes de nos professeurs, de nos maîtres d'école. Alors que, voyez, alors je vais prêcher pour ma chapelle, alors que dans un système tel que l'a défini Maria Montessori, très tôt, voyez, dès que l'enfant arrive à 3 ans, et même parfois un petit peu avant, dès que l'enfant arrive à 3 ans à l'école, eh bien, ce qu'on va essayer de mettre en place, de créer un environnement dans lequel l'enfant va pouvoir trouver sa voie de développement, et sa voie de développement authentique, j'ai envie de dire.
Quand vous entendez Philippe Mérieux dire que parfois c'est effectivement compliqué, il faut donner des justifications, beaucoup, quand on utilise des méthodes qui sont différentes, même à la marge, parce qu'encore une fois, donner la parole à des élèves, on n'a pas l'impression non plus que ce soit quelque chose de fondamentalement révolutionnaire, ça paraît frapper au coin du bon sens que nous racontait Bruno à l'instant. Donc est-ce qu'il y a toujours, aujourd'hui, des années après, un vrai soupçon qui pèse sur ces enseignements-là, vous pensez ?
Oui, je crois, et beaucoup actuellement s'emparent de la pédagogie Montessori. Il y a une vague comme ça qui arrive de la base de l'éducation des maîtres, des professeurs des écoles. Certains ont beaucoup de soucis, oui, avec leur hiérarchie pour installer des environnements Montessori dans leur classe, oui.
Et c'est le paradoxe en fait, vous êtes entré dans les écoles et en même temps, on vous reproche d'y être entré au final. C'est un peu le diable qui se mord la queue. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
On vous écoute, Thierry. Vous êtes inspecteur à l'éducation nationale.
Oui, tout à fait. D'abord, enchanté de participer à votre émission. Bonjour à tous les invités, à Monsieur Mérieux, que je suis depuis longtemps. Oui, inspecteur de l'éducation nationale, et j'ai eu la grande chance de démarrer en pédagogie institutionnelle avec Fernand Horry il y a maintenant plus de 35 ans. Donc, je partage tout à fait ces éléments. Non, vous dire que je pense que pour moi, l'école paye un petit peu son histoire et ancrée dans l'élitisme, qui fait qu'on est d'abord sur la transmission de savoir. Et moi qui donc suis inspecteur du premier degré, je rencontre énormément d'enseignants qui voudraient faire autrement, mais là on a un gros déficit de formation pour aider les enseignants à faire autrement. Voilà, donc c'est très compliqué. Et moi maintenant quand je vais voir un enseignant, je lui pose 3 questions. Dans les échanges avec les élèves, en fait qui parle à qui ? 90% du temps on voit un enseignant qui parle à un élève. Et après je lui dis, bon d'accord, vous savez, vous parlez trop, mais en fait, si vous analysez les échanges, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que dit l'élève? 90% des fois aussi, on a un enseignant qui parle, qui formule des questions et un élève qui répond par un mot, par une phrase maximum. Souvent d'ailleurs, l'enseignant dit, mais fais une phrase pour répondre. Et en général, quand je te pose la 3e question, mais en fait, qui réfléchit? Et l'enseignant se rend compte qu'en fait, c'est lui qui a réfléchi et pas l'élève. Maintenant, comment faire autrement? Là, il est souvent très démuni. Et c'est extrêmement compliqué, dans les moyens de formation qu'on a actuellement, d'accompagner les enseignants dans cette voie-là.
On va parler de formation dans un instant avec Patricia Spinelli. J'ai une question pour vous, Thierry. Quand vous voyez vos collègues inspecteurs, par exemple, alors vous qui êtes acquis à ces méthodes, et notamment la pédagogie institutionnelle, est-ce que vous avez le sentiment, y compris parmi vos collègues inspecteurs, qu'il y a aujourd'hui encore une forme de réticence, et que c'est plus compliqué finalement pour les profs qui sont inspectés lorsqu'ils le sont avec ce genre de pédagogie, ou pas du tout ?
Alors, la sensation que j'ai, moi, de mes collègues que je connais, c'est que majoritairement, notamment dans l'éducation prioritaire, ils sont plutôt convaincus qu'il faut ce type de pédagogie. Après, c'est plutôt les moyens maintenant pour les amener. Et comme le disait le collègue de lycée professionnel, on n'est pas vraiment dans l'air du temps en ce moment sur le sujet.
Vous n'êtes pas dans l'air du temps sur le sujet. Oui, c'est ce qu'il disait tout à l'heure l'autorité, etc., l'autorité du professeur et l'apprentissage avant le salariat. C'est ça que vous voulez dire, Thierry ?
Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Moi, je milite pour une autorité éducative et non pas pour une autorité, fondée sur je ne sais quoi d'ailleurs. Voilà, uniquement le statut.
Patricia Spinelli, sur la formation des enseignants qui voudraient se former à un certain nombre de méthodes et de pédagogie.
Alors moi je peux vous répondre pour la pédagogie Montessori.
Ah, bien sûr, oui. Directrice de l'Institut supérieur, oui. Maria Montessori, donc c'est votre truc.
C'est-à-dire qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui existent, un peu tous azimuts, et beaucoup de professeurs des écoles s'en emparent aussi un peu tous azimuts. Des formations, vous savez, le nom Montessori n'a jamais été déposé. C'est-à-dire que n'importe qui peut ouvrir une école, dire qu'elle est Montessori, n'importe qui peut ouvrir un centre de formation.
Ce qui est un peu un souci, non ?
Oui, c'est un souci. Et dire que c'est un centre de formation Montessori. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il y a énormément de formations qui se mettent en place parce qu'il y a un tel potentiel, effectivement, de tous ces professeurs de l'éducation nationale qui sont à la recherche, alors disent-ils, d'outils. Alors qu'on est bien au-delà de l'outil, au niveau de la pédagogie Montessori. Après, il y a des formations reconnues par l'association internationale, dont l'Institut fait partie, l'Institut supérieur Maria Montessori. Oui.
Non, allez-y, pardon, finissez.
Oui, et nous délivrons donc des formations et nous formons des éducateurs à la pédagogie Montessori.
Est-ce que ce sont forcément des formations privées, c'est-à-dire que ça coûte forcément ?
Alors oui, ça coûte forcément, puisqu'on est un établissement privé d'enseignement supérieur, mais un certain nombre de nos étudiants sont pris en charge par les fonds de formation, les OPCA, au titre de la formation professionnelle.
Combien ça coûte ? Est-ce qu'on peut avoir une idée ?
Oui, bien sûr.
Moi, je suis prof, combien ça coûte si je veux me former à certaines méthodes Montessori ?
Ça coûte 8 800 euros pour une année de formation. Oui, c'est beaucoup.
Et ça dure ?
Et ça dure une année, c'est 600 heures de formation plus les stages. Plus 150 heures et 210 heures de stage.
Philippe Mérieux, on a l'impression que, je le disais tout à l'heure, j'employais ce mot déjà, il y a deux mondes en fait. Là, typiquement, quand il s'agit de se former, qui peut le faire ? Qui a le temps de le faire ? Qui a les moyens de le faire ?
Alors, la question de la formation des enseignants, évidemment, est absolument centrale et notre collègue inspecteur l'a souligné. Nous vivons en France depuis quelques années une forme d'amnésie pédagogique, c'est-à-dire que au nom d'un certain nombre d'idéologies, l'ère du temps a été évoquée par mes collègues, mais on a tellement entendu parler de la pédagogie en mal que les grandes figures pédagogiques, Maria Montessori, mais aussi des tas d'autres, on a évoqué Célestin Freinet, qui est une figure tout à fait centrale de la pédagogie contemporaine. Ces grandes figures de la pédagogie, on peut devenir professeur sans les avoir rencontrées, sans avoir travaillé sur leurs textes, et ne parlons pas de figures encore plus importantes, fondatrices, comme Pestalozzi, Herbart ou Makarenko, par exemple. Il y a une amnésie de tout ça, et les enseignants à qui on apporte un certain nombre de données et on fait bien de leur apporter à caractère didactique sur les disciplines qu'ils ont à enseigner, vivent un espèce de déficit qui les met dans des situations de classe parfois en panique ou en difficulté pour comprendre ce qui est en train de se jouer entre eux et leur classe.
Mais,
demande est considérable. Ce qui est grave, c'est que l'éducation nationale ne fasse pas droit à cette demande.
Alors voilà,
qu'elle ne le fasse ni en formation initiale, ni en formation continue.
J'allais vous poser la question, amnésie de qui ? Donc vous avez répondu, effectivement, de l'éducation nationale. Est-ce qu'à un moment, on peut imaginer, est-ce que ça a déjà été demandé qu'une formation Montessori, une formation Freinet, peu importe, soit dans le cadre de la formation continue et professionnelle des enseignants auxquels ils ont droit comme tout un chacun, est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment cela rentre dans ce processus ou pas ?
Oui, ça arrive et il y a quelques cas exceptionnels dans telle ou telle académie où les choses se passent ainsi, où les mouvements pédagogiques, en particulier l'ICEM pour la pédagogie Freinet, l'OCCE pour la pédagogie coopérative, l'Office central de la coopération à l'école ou d'autres, peuvent proposer des formations dans le cadre de la formation continue. Mais ça reste très ténu, c'est sur la base du volontariat, c'est quelques heures ou quelques jours, ça n'a rien à voir avec ce qui a été pendant très longtemps porté par l'éducation populaire, par les mouvements pédagogiques, et qui faisait que chaque enseignant, du premier degré en particulier, se sentait partie prenante de la recherche pédagogique. Chaque enseignant de l'époque de Jules Ferry recevait le dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson, se sentait partie prenante de tout un mouvement. Il était passionné par la pédagogie et on lui offrait, pour répondre à sa passion, toute une série de formations et de documents. Tout cela a été largement discrédité au nom parfois d'une vision un peu scientiste des choses qui laisse tomber toute la dimension relationnelle, mais aussi la dimension des finalités, la dimension philosophique. Et c'est un peu cela que certains parents vont chercher dans les écoles dites alternatives. Ils ont le sentiment que l'éducation nationale, c'est une machine et que le développement personnel, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais tout ce qui renvoie à l'évolution de la personne, à son autonomie, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Montessori, tout ce qui renvoie à l'éducation artistique, tout ce qui renvoie à la coopération entre élèves, ils ont le sentiment que tout cela est mis sur la touche, que ça n'est pas au cœur de l'école, que ça n'est pas dans les valeurs de l'école républicaine, et ils vont chercher ailleurs. C'est très dommage, parce que l'école républicaine assume, en plus de la pédagogie, une fonction essentielle qui est la mixité sociale. Le fait d'apprendre ensemble et avec d'autres qui ne nous ressemblent pas, ce que malheureusement, parfois, les écoles alternatives ne garantissent pas.
Patricia Spinelli, c'est vrai que du coup, l'image de l'école alternative, très souvent, c'est des enfants, c'est ce que disait tout à l'heure en introduction, des enfants qui ont la chance de pouvoir entrer dans une école privée, qui ont des parents, par ailleurs, qui sont derrière, et avec un acquis déjà en termes de lecture ou d'écriture, qui est déjà important de la part de ces enfants. Donc on peut se concentrer sur tellement d'autres choses.
Oui, vous avez raison. Et nous avons beaucoup d'enfants dans les écoles Montessori qui sont pour la plupart des écoles privées hors contrat.
Ça coûte combien une école Montessori ?
C'est très divers parce que une école Montessori à Paris, une école Montessori en province, c'est pas du tout le même prix.
Donnez-nous une fourchette.
Alors voilà, je vais vous donner une fourchette. Ça peut aller de 400 euros par mois jusqu'à 1200, je pense.
Par mois. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir beaucoup de moyens pour les parents pour pouvoir...
Et ça, c'est aussi le drame des écoles Montessori. C'est-à-dire qu'on aimerait tellement que ce soit ouvert à un plus grand nombre. On aimerait tellement pouvoir avoir quelques contrats de temps en temps avec l'État. Mais pour l'instant, on nous les refuse. Et j'ai presque envie de dire que nous sommes condamnés à être des écoles privées hors contrat, et nous le regrettons beaucoup. Après, ce sont de petites institutions qui ont besoin de vivre, de payer les loyers, les salaires, etc.
Et avec, disons-le clairement, c'est ce que disait Philippe Mérieux, probablement des élèves qui sont blancs pour la plupart, qui sont d'un milieu social qui doit être à peu près le même la plupart.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut, je m'engage pas beaucoup en disant qu'il n'y a pas beaucoup de mixité sociale dans les écoles Montessori, sauf quelques-unes qui sont reconnues par l'État, mais il y en a très peu.
Est-ce qu'on peut dire combien ? Est-ce qu'on a une idée en termes de pourcentage pour qu'on se rende compte de la différence ?
Je crois que sur 100-200 écoles Montessori actuellement qui sont à peu près identifiées, je crois qu'il y en a 5 qui sont reconnues par l'État. Et elles le sont, pas toutes, mais la plupart par le courant catholique.
Par le courant catholique.
Oui, c'est-à-dire le diocèse.
Je voudrais qu'on écoute Régine. Bonsoir Régine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Beaucoup d'éléments de réponse à la question que je souhaitais poser, à savoir que proposent des écoles du style Montessori pour des élèves, puisque vous avez abordé le sujet, je peux parler clairement, je crois, issus des banlieues, des cités. Donc voilà, moi j'aimerais savoir ce qu'on propose pour ces élèves-là. Et après, suivant votre émission, ce que j'ai à dire, c'est que quand même beaucoup des idées Montessori freinées ont infiltré l'éducation nationale. Je ne sais pas si je suis une professeuse dans le cadre institutionnel, mais je crois beaucoup dialoguer avec mes élèves et être à l'écoute de mes élèves et leur laisser une libre parole, justement, qu'il ne soit pas « je pose une question et juste j'attends la réponse ».
Merci beaucoup Régine, parce que c'est un peu ce que je disais après le témoignage de Bruno tout à l'heure, ça a l'air tellement frappé au coin du bon sens qu'il y a probablement aussi beaucoup de profs, Philippe Mérieux, qui, sans mettre un nom de pédagogie derrière, emploient évidemment ce genre de pédagogie avec leurs élèves, non ?
Bien sûr, et un des problèmes qu'a évoqué Patricia Spinelli tout à l'heure est un problème de fond. Si l'éducation nationale ne peut pas reconnaître les écoles Montessori, c'est parce que l'éducation nationale ne peut pas identifier une méthode pédagogique unique. Le principe de l'éducation nationale, c'est la liberté pédagogique de l'enseignant. L'idée centrale, c'est que l'ensemble de ces courants pédagogiques, Freinet, Montessori, etc., peuvent à un moment ou un autre apporter à l'enseignant de quoi nourrir sa pédagogie et de quoi réfléchir sur la manière de mieux travailler avec sa classe. Mais la tradition de l'éducation nationale française, c'est d'éviter cette homogénéité idéologique d'une pédagogie qui se revendiquerait d'une manière un peu identitaire, parce que nous considérons, l'école française considère que c'est pas ça l'école de la République, que l'école de la République emprunte à tout ce qui est disponible pour permettre à tous les enfants dans leur diversité de réussir. Et pour aller dans le sens de ce que disait notre collègue, bien sûr, il y a des difficultés dans les banlieues, bien sûr, parfois, on entend des parents qui disent qu'ils vont mettre leurs enfants en école alternative parce que leur enfant peine à l'école publique, mais s'il y avait plus de maîtres supplémentaires, par exemple, ce qu'on appelle les RASED, les réseaux d'aide et de soutien aux élèves en difficulté, eh bien, dans l'école publique, on pourrait traiter des cas spécifiques de parents qui, aujourd'hui, ont le sentiment que, ils sont un peu mis à l'écart. Et je crois que l'école publique n'a pas toujours les moyens de faire ce travail de suivi individuel que, pour des raisons de petit effectif, etc., l'école alternative peut faire. Et puis, un dernier point, il y a une chose que l'école publique ne veut pas, et je ne le comprends pas, parce que tous les chercheurs montrent que c'est une chose formidable, c'est des classes multiniveaux. C'est des classes dans lesquelles des grands de CM2 travaillent avec des élèves de CE1, leur expliquent des choses, ils en parlent ensemble. Or, nous rétrécissons toujours le multiniveau, nous allons vers des classes de plus en plus homogène, et d'une certaine manière, seules les écoles alternatives aujourd'hui proposent des classes multiniveaux. L'éducation nationale s'enferme dans cette idée de la classe homogène où les élèves doivent être tous pareils et faire tous la même chose en même temps. Et quand l'éducation nationale se sera libérée de ce carcan, tout le monde fait la même chose en même temps, de la même manière, alors je pense que la nécessité même des écoles alternatives, d'une certaine façon, disparaîtra.
Merci Monsieur Mérieux. Marc nous appelle, vous êtes prof de français en collège. Marc, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question. Merci à tous vos intervenants. Oui, moi, je suis professeur en collège et c'est compliqué pour nous en collège de mettre en place des pédagogies alternatives parce que les séquences de cours sont courtes, c'est 50 minutes. Et je suis assez effaré de voir que, comme le disait Monsieur Mérieux, l'éducation nationale ne s'empare pas des recherches qui sont faites et des résultats qui sont probants. C'est-à-dire que c'est pas des élucubrations. Aujourd'hui, on a des preuves, comme avec le livre de Signe Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant, qui a mené une expérience au Aubervilliers. Et voilà, et je suis assez très triste parce que tout à l'heure une intervenante parlait aussi que ce n'est pas que des outils. Oui, c'est pas que des outils, c'est vraiment une question de sens aussi. Et je voulais savoir si ces écoles Montessori, tous ces gens-là sont reçus régulièrement par des gens du ministère de l'Éducation nationale, des gens qui ont des pouvoirs de décision pour faire avancer les choses, parce que vraiment il y a, moi je continue à je continue mon travail parce que je l'aime, parce que j'aime mes élèves, mais je me pose vraiment la question du sens de tout ça. Et j'ai l'impression que dans l'éducation nationale, comme en médecine, comme en agriculture, on fait aujourd'hui des choses et qu'on n'en tient pas compte. Et ça me désole.
Marc, merci beaucoup. Patricia Spinelli, est-ce que parfois vous rencontrez l'éducation nationale, vous rencontrez le ministère de l'éducation nationale pour parler de ce que vous faites?
Alors oui, bien sûr. Nous rencontrons les personnes du cabinet du ministre assez régulièrement. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire à chaque nouveau gouvernement. Nous avons une écoute particulièrement ouverte cette année. Nous y sommes allés avec l'association Montessori de France. Mais il ne se passe rien ensuite. Voilà, tout le monde est très intéressé, tout le monde dit que c'est très intéressant, mais concrètement, voyez, ce n'est jamais suivi des faits jusqu'à ce jour.
Alors il y a une chose intéressante qu'a dit Philippe Mérieux sur la diversité aussi, y compris des écoles Montessori, et la difficulté peut-être pour l'éducation nationale de savoir qui est extrêmement sérieux ou qui l'est moins, en fait. C'est aussi ça que ça veut dire. Est-ce que vous ne gagneriez pas à redéfinir un cadre et à labelliser des écoles qui seraient éducation nationale compatible, en gros?
Alors oui, ça sûrement. On a sûrement un très gros travail à faire de notre côté aussi. Mais il faut savoir qu'il existe une charte des établissements Montessori de France et qu'un certain nombre d'écoles sont signataires de cette charte. On a déjà un document, alors qui n'est pas un label à proprement parler, mais qui est quand même un travail que nous avons mené.
L'idée serait de savoir à qui vous donnez votre agrément, en fait. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, que c'est pas déposé Montessori. Donc moi, si je veux, ça veut dire que je peux ouvrir une école Montessori.
Absolument, oui, vous pouvez ouvrir une école Montessori. Alors cette charte, elle définit un cadre, un cadre dans lequel doivent s'inscrire les écoles qui sont signataires de cette charte. Et je pense que celles-ci, je pense qu'elles sont compatibles avec l'éducation nationale et notre formation devrait être compatible avec l'éducation nationale, je pense.
Et ben justement, je voudrais qu'on écoute Eric, parce que le problème ensuite de savoir où on met les pieds, où les enfants mettent les pieds, est parfois posé. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y Eric.
Merci pour la qualité de votre émission. Alors effectivement, moi je suis conseiller d'éducation populaire de jeunesse. Le professeur Mérieux en parlait tout à l'heure. Et j'ai constaté dans notre département certaines écoles qui affichent sur leur fronton des pédagogies tout à fait respectables. Alors ça peut être effectivement Montessori ou Freinet. J'en ai moi-même bénéficié dans un cadre scolaire classique. Mais certains organismes, en fait, peu à peu connaissent des dérives sectaires ou entraîne des parents vers des comportements qui sont problématiques. Donc bien sûr, sans jeter l'amalgame, quels sont les critères que l'on pourrait déterminer pour donner des conseils utiles aux parents?
Merci beaucoup Eric, et le sens de cette question Philippe Mérieux, c'était notamment ce qui s'est passé dans l'actualité très récemment avec Françoise Nyssen qui a pris beaucoup de recul par rapport à une école dans laquelle elle était réellement impliquée. Et c'est une bonne question celle d'Eric Philippe Mérieux. Comment on sait quand on est parent et qu'on sait qu'on a un enfant qui sera pas bien adapté dans une école traditionnelle réellement, mais et qu'on a là cette école un peu particulière ou alternative, comment on est sûr qu'on l'envoie vraiment dans quelque chose qui lui rendra service?
Alors on peut difficilement en être sûr avant d'avoir essayé, même si on prend toutes les précautions, mais derrière la question qui vient d'être posée, il y a la question du rapport des parents et de l'école. L'idée sur laquelle l'école française s'est construite, c'est que pour qu'un enfant grandisse, il faut qu'à un moment il y ait une rupture avec le milieu familial. C'est pas une rupture agressive, c'est pas une rupture violente, mais aller à l'école, c'est découvrir que il y a d'autres familles que moi, que ces autres familles pensent pas la même chose que moi, qu'il y a des croyances différentes, mais qu'en dépit de ces croyances, on va acquérir les mêmes savoirs. Et les savoirs unissent pour l'école laïque, alors que les croyances divisent, elles séparent. Et je crois que un des problèmes aujourd'hui, c'est ces écoles alternatives qui deviennent progressivement des écoles un peu claniques, c'est-à-dire des écoles où les familles embauchent le directeur, la directrice, les enseignants, décident de la pédagogie, et ça devient quelque chose qui, au lieu de libérer l'enfant et de lui faire découvrir d'autres univers, risque de l'y enfermer. Et je pense que ça, c'est réellement un danger. Le mot sectaire a été prononcé par notre interlocuteur. C'est réellement un danger auquel il faut être extrêmement attentif. C'est pas d'ailleurs un danger qui ne touche que les écoles privées. On peut le trouver aussi dans certaines écoles publiques. Il y a aussi des regroupements claniques dans certains grands lycées de centre-ville qui sont tout aussi claniques que dans certaines écoles nouvelles. Mais il me semble que c'est contraire à l'idéal républicain. L'idéal républicain, c'est des écoles où les gens s'enrichissent de leurs différences. Et je crois que la notion de mixité sociale, de diversité, d'acceptation aussi d'élèves porteurs de handicap, la question de cette ouverture sur le monde, ce non-renfermement sur soi, sur ses croyances, sur ses propres affinités sociologiques ou psychologiques, c'est un critère essentiel pour faire d'une école une école libératrice.
Patricia Spinelli, est-ce que ça vous est arrivé, vous, chez Montessori, de réaliser que certaines écoles qui portent votre nom sont en train de prendre des allures qui vous plaisent pas? Est-ce que vous avez moyen, vous, alors de fermer, j'en sais rien, mais en tout cas de prévenir les parents dans ces cas-là?
Alors oui, bien sûr que ça nous est arrivé, et ça était, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors après, on a très peu de moyens. Vous savez, toutes les écoles Montessori sont, je vous ai dit, pratiquement privées hors contrat, donc de droit privé. Nous représentons une autorité, et j'en parlais avec mes étudiants l'autre jour, je leur disais finalement, nous représentons une autorité sans autorité. Hein, c'est-à-dire.
C'est fou que ça n'ait pas été déposé. Moi, vous me l'apprenez sincèrement et ça me laisse un peu pantoise.
Et nous représentons l'association Montessori Internationale en France, mais encore faut-il reconnaître l'association Montessori Internationale. Vous voyez, parce qu'elle aussi, c'est une association qui a été créée par Maria Montessori au moment où elle était encore vivante et où elle voulait garder son héritage, transmettre son héritage, etc. Et après, dans les différents pays, il y a une association nationale, il y a des centres de formation qui sont et affiliés et reconnus. Mais encore faut-il que les autres nous reconnaissent cette autorité.
Et quand vous constatez qu'il y a dérive dans une des écoles, que ça ne correspond pas à votre pédagogie réellement, vous avez moyen de faire quelque chose ou pas du tout?
Alors, c'est très limité. Ce qu'on peut faire est très très limité. Souvent, ça nous revient par un certain nombre de parents qui s'adressent à nous parce que ils sont pas contents, ils nous alertent. Nous, on va vers les directeurs, on essaie de s'informer sur ce qui se passe. Mais je veux dire, notre action est très très limitée, vous savez.
Sylvie, c'est vous la dernière. Promettez-moi de ne pas parler trop longuement, s'il vous plaît, mais on vous écoute, allez-y.
Oui, je vais essayer, bonsoir. Je voulais témoigner parce que nous avons mis notre fille dans une école alternative à Lyon suite à un décrochage scolaire. Donc j'en profite pour dire que c'est pas toujours un choix de la part des parents parce que on était nombreux à avoir mis nos enfants dans un système qui les accueillait suite à une phobie scolaire. Donc parfois on le fait par choix, moi j'allais vers ça naturellement aussi, mais enfin c'était aussi parce qu'elle avait décroché en sixième. Elle a passé un an dans une école démocratique à Lyon, donc une école dans laquelle il n'y avait aucun enseignement, où les enfants choisissaient leur programme. Donc les enfants faisaient s'ils le souhaitaient.
Pas de programme, pas de contraintes, rien.
Exactement, 6 heures de jeu sur leur téléphone ou sur ce qu'ils voulaient, voilà. Donc en tant que parent, c'est un petit peu...
Il y a Patricia Spinelli qui a failli s'étouffer avec l'eau qu'elle est en train de boire, là.
Mais je vais venir vers elle aussi parce que suite à cela, donc elle a passé un an comme ça. Et cette année a eu quand même eu beaucoup de vertus. Tout d'abord de lui faire reprendre confiance en elle, ça c'est une réalité. Et elle a demandé spontanément, notre fille, à retourner en collège normal, à avoir à nouveau des profs, des devoirs, des contraintes, etc. Donc je rejoins ce que disait, je ne sais plus quel est l'intervenant précédent, qui disait que les enfants ont besoin aussi d'être dans un groupe, un besoin de normalité, d'être scolarisés avec les autres. Elle a exprimé clairement ce besoin-là. Et nous avons choisi de la mettre au collège Montessori de Lyon, qui a ouvert, et il me semblait que c'était une bonne opportunité pour faire la transition. Il s'avère que non, c'était un tout petit effectif, ça ne correspondait pas du tout à ce qui nous avait été proposé. Donc il y a le tiers des familles, enfin c'était tout petit, hein, donc quand je dis tiers, ça faisait pas énorme, qui s'est arrêté au bout de la première semaine. Et dans l'urgence, j'ai trouvé une place en collège pour notre fille. Elle est rentrée en quatrième, donc sans avoir fait de cinquième du tout.
Sylvie, il va falloir conclure, s'il vous plaît, parce qu'on est déjà en retard. Et est-ce que ça se passe bien dans le collège de votre fille?
Tout à fait. Bon. C'est pour dire que malgré tout, elle s'est très bien adaptée, même scolairement, ça se passe très bien et ça a été à sa demande.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Sylvie. Philippe Mérieux, ce sera vous pour la conclusion. Mais c'est une question importante pour les parents. Le passage d'une école dite alternative et au système normal, si je puis dire, ça se prépare aussi. Et en général, c'est ce qu'on entend là, est-ce que ça se passe vraiment bien?
C'est très différent d'un enfant à l'autre et je crois qu'il n'y a pas de règles. Surtout que derrière le mot école alternative, il y a des réalités extrêmement différentes. On vient de parler des écoles démocratiques, ça n'a évidemment rien à voir avec une classe en pédagogie freinée, ça n'a évidemment rien à voir avec une école Montessori. Je pense que l'important, c'est de former des enfants à la réflexion, à l'autonomie, à la capacité de comprendre le monde et leur donner le désir de comprendre le monde. Je pense que c'est dans l'éducation nationale d'abord que ça doit se faire et que c'est à l'éducation nationale d'encourager les enseignants pour que les parents n'aillent pas chercher ailleurs ce que l'éducation nationale doit leur donner.
Merci beaucoup Philippe Mérieux, ce sera la phrase de conclusion. Merci à vous aussi Patricia Spinelli.
Merci à vous.
Très très en retard.